Vous écoutez, on lit pour vous.
L'autisme invisible. Un texte de Catherine Hanfield, paru le 26 avril 2026 dans la presse. C'est l'entrevue de Louis T. à Tout le monde en parle d'il y a 10 ans qui a mis la puce à l'oreille de Nolia Bélanger. Elle se reconnaissait drôlement dans ce que décrivait l'humoriste qui venait de recevoir un diagnostic du syndrome d'Asperger, aujourd'hui désigné comme de l'autisme de niveau 1. Nolia avait 27 ans à l'époque. Peu de personnes de mon entourage savaient à quel point c'était compliqué, ma vie, confie la résidente de Québec rencontrée par visioconférence. Socialiser lui demandait beaucoup d'efforts. Pour passer inaperçu, elle imitait les autres et réprimait des comportements, certains tics par exemple, une stratégie qui porte le nom de « camouflage social ». Et il lui fallait toujours tout prévoir, tout le temps. Ça demande énormément d'énergie, pallier l'imprévu, dit-elle. Nolia changeait souvent d'emploi parce qu'elle s'effondrait après quelques mois. 6 mois à l'emploi, 6 mois arrêtés. Enfant, Nolia ne parlait presque pas. Parce qu'elle avait beaucoup d'intérêt pour l'art, sa mère l'a rapidement inscrite à des cours, et ce fut, pour la petite Nolia, une révélation. C'était la première fois que je pouvais m'exprimer par autre chose que la parole, se souvient Nolia, aujourd'hui artiste. Après un parcours du combattant dans le réseau public, Nolia Bélanger a reçu son diagnostic d'autisme en 2019, au privé. Elle confie avoir traversé une période de deuil. « Tout le monde dans ma vie m'a tout le temps dit « Tu vas voir, tu vas vieillir, tu vas changer. » »« Ben non, c'est de même, » dit-elle en riant. Le diagnostic lui a fait prendre conscience de l'importance de respecter ses limites et de planifier son horaire en conséquence. Elle fait beaucoup moins de camouflage social aujourd'hui. On lui dit parfois qu'elle n'a pas l'air autiste. Nolia Bélanger hausse les épaules. Encore aujourd'hui, constate-t-elle, la vision de l'autisme est teintée par les cas les plus sévères. C'est pour contribuer à changer l'image de l'autisme, à la rendre plus diverse et plus positive, que Nolia a accepté de faire cette entrevue. Une vision du monde différente. L'autisme est caractérisé par des particularités dans 2 sphères. La communication et les interactions sociales, d'une part, et les comportements répétitifs et intérêts restreints, d'autre part. Aux yeux de Nolia, l'autisme n'est pas un trouble, mais plutôt une façon différente de percevoir le monde, de le ressentir. Pour illustrer cette différence, on utilise souvent la métaphore d'un paysage de forêt. Tandis que la personne neurotypique verra le plan d'ensemble, bref, une forêt, et passera à autre chose, la personne autiste s'attardera à chacun des détails. « Comme un film qui dure 2 heures, dit-elle. Le ciel, puis les arbres, les nuages, les plantes au sol, l'insecte qui nous frôle, ça, c'est chaque minute. » L'autisme vient avec des difficultés. Soit, tout n'est pas rose, résume Nolia, qui a une contrainte sévère à l'emploi, mais aussi avec des forces. Les autistes sont des experts dans leurs intérêts particuliers, et Nolia s'attriste de voir que le système ne met pas cela en valeur. En fait, dit-elle, le système n'est simplement pas conçu pour les autistes. Nolia Bélanger fait part d'une histoire qui l'a marquée il y a quelques années lorsqu'elle faisait un projet pilote avec Autisme Québec au Musée national des beaux-arts du Québec. Elle avait organisé une série d'ateliers d'art pour les autistes adultes. Une femme avait emmené son fils de 23 ans. Au premier atelier, le jeune homme, en surcharge, était parti. L'horaire n'était pas assez précis, explique Nolia. Alors on l'a refait en indiquant heure par heure ce qui allait se passer. D'atelier en atelier, le jeune homme a pris sa place. Au 5e atelier, il a levé la main pour poser une question, lui qui parlait peu ou pas en temps normal. Et au sixième, il a fait signe à sa mère de s'éloigner. Il discutait avec un autre participant. Selon ce que sa mère m'avait confié, les médecins lui avaient dit que son fils n'allait jamais parler ni pouvoir s'intégrer à un groupe. « C'était maintenant fait », dit Nolia. Par la suite, dit-elle, le jeune homme a intégré les ateliers d'art ordinaires. Quand les choses sont faites par et pour des autistes, ça fonctionne vraiment, résume Nolia, qui a co-signé un manifeste en 2024 pour revendiquer un soutien plus adapté pour les autistes. Si on mettait à profit les intérêts particuliers des autistes et si on offrait un meilleur soutien financier à ceux qui ne peuvent pas occuper un emploi en raison de leur situation, ce serait un très grand pas, estime Nolia. Les autistes prennent un chemin différent, en zigzag, mais ce chemin permet souvent de trouver des solutions auxquelles personne n'avait pensé, souligne Nolia Bélanger, qui espère une chose, que la vision de l'autisme change. C'était « L'autisme invisible », un texte de Catherine Hanfield paru le 26 avril 2026 dans La Presse.
Semer sur le bitume, un texte de Sandra Fauché-Marquis, paru le 1er avril 2026, dans La Presse. Enseignante de français et d'art dramatique, Sandra Fauché-Marquis nous livre ses réflexions. Récemment, Mario Girard a interrogé ses lecteurs relativement à leur premier contact avec la culture en contexte scolaire. Cela m'a plutôt ramené à mes débuts en arts et lettres, profil théâtre au cégep, lorsque je me suis retrouvée devant la question suivante « Qu'est-ce que la culture ?» Je me souviens de m'être alors interrogée à savoir pourquoi l'on regroupait les arts sous ce substantif qui tient plutôt du champ lexical de l'agriculture. Je n'avais pas encore acquis la notion du figuré, la quintessence de l'analogie. Consommer les arts vivants, n'est-ce pas cultiver son jardin intérieur ? Semer dans son esprit des référents culturels et, au moment des récoltes, interpréter le monde avec une meilleure acuité. Au Québec, alors que nous possédons une corne d'abondance, tant notre milieu artistique foisonne, je m'explique mal pourquoi l'on exige presque toujours de ce dernier qu'il sème sur le bitume. En réalité, le sens du mot « culture », j'estime l'avoir pleinement compris, lorsque je suis devenue enseignante et que j'ai revêtu mon rôle de médiatrice d'éléments de culture, c'est-à-dire celui de répandre, avec la patience du jardinier, de petites bribes d'humanité chez des êtres dont la pensée s'apparente à un bourgeon sur le point d'éclore, chez des êtres à l'émerveillement non encore flétri. Victoire amère. Au regard de ma posture d'enseignante de français et d'art dramatique, l'accès universel à la culture pour les élèves du Québec m'importe considérablement. Aussi ai-je attendu avec inquiétude et espoir les annonces liées au budget 2026-2027 le mercredi 18 mars 2026. Bien que je partage le soulagement des milieux scolaires et artistiques en ce qui a trait au maintien du financement du programme « La culture à l'école », je m'interroge quant au soulèvement populaire qu'il aura fallu simplement pour conserver cette mesure essentielle. Front commun, chronique dans les médias, pétition présentée à l'Assemblée nationale. En ce qui me concerne, il s'agit d'une victoire teintée d'amertume. Pourquoi menace-t-on si souvent la culture d'être laissée en jachère? À Sherbrooke, où je réside, nous disposons depuis peu d'une salle de spectacle destinée au public jeunesse, le Grand Espace, inauguré il y a moins d'un an. Ce lieu de diffusion s'avère le fruit d'un parcours du combattant, un projet presque chimérique porté à bout de bras par la communauté artistique de la région pendant plus de trois décennies. Considérant que la clientèle scolaire représente une large part de la vente de billets, si les subventions accordées aux sorties culturelles en venaient à diminuer, cette salle, tant rêvée et tant attendue, se viderait de son auditoire, ce qui condamnerait les artistes à se produire devant des spectateurs fantômes. J'aimerais ne plus jamais craindre ce type de scénario. Lors de ma lecture de la version provisoire du programme remanié d'enseignement du français, j'ai salué le fait qu'une variété d'expériences culturelles y soit prescrite annuellement, dont la fréquentation d'un lieu mettant en valeur la langue et la culture. Or, ma première réflexion a été la suivante. Comment les milieux scolaires, déjà aux prises avec des restrictions budgétaires austères, pourront-ils respecter ces nouvelles balises sans recevoir de fonds supplémentaires à cet effet ? Les 119 millions de dollars annoncés pour sauver le programme La culture à l'école suffiront-ils ? Si les retombées des investissements en culture ne se perçoivent pas lors des moissons budgétaires, celles-ci dépassent souvent largement les champs financiers. Initier les jeunes aux arts vivants, c'est leur permettre de vivre des expériences authentiques de la catharsis qui ne pourraient pas être ressenties aussi intensément devant un écran. Ces expériences créent des moments bénis qui s'inscrivent longuement dans la mémoire émotionnelle d'un individu. Au printemps 2024, j'ai assisté avec des élèves à une représentation d'André et Dorine, une pièce de théâtre masquée et sans texte, de laquelle nous sommes ressortis les yeux mouillés et la gorge nouée de sanglots. Encore aujourd'hui, je ne peux mentionner ce spectacle en classe sans provoquer un bref silence accompagné d'un frisson collectif. Bien qu'intangibles, les impacts positifs des sorties culturelles sont réels et persistent dans le temps. N'oublions jamais que sans accès universel à des produits culturels de qualité par l'intermédiaire du milieu scolaire, notre jeunesse se gavera principalement de fraises de la Californie alléchantes à l'extérieur, insipides à l'intérieur, devant Netflix ou d'autres plateformes génétiquement modifiées en provenance des États-Unis. Est-ce vraiment ce que nous voulons? Cet été, je ferai un jardin. J'en prendrai bien soin. Chantait Clémence Desrochers. Même restreinte à une petite parcelle de terre en milieu aride, je continuerai à semer à tout vent des référents culturels qui germeront et croîtront, je l'espère, dans les esprits de mes élèves, et ce, même s'il me faut semer sur le bitume. J'aimerais seulement qu'on n'omette pas de me distribuer un peu d'eau et du soleil. C'était « Semer sur le bitume », un texte de Sandra Fauché-Marquis, paru le 1er avril 2026 dans la presse.
À Québec, les escaliers remontent la pente. Un texte de Gabriel Bélan, paru le 28 mars 2026 dans la presse. La ville de Québec lance un chantier pour rénover ou remplacer 5 de ses escaliers majeurs, liens essentiels dans une ville à 2 étages. Certains de ces ouvrages rongés par la rouille et plus que centenaires bénéficieront d'une cure de jouvence. Les images ont fait sensation sur les réseaux sociaux. Le populaire escalier du Faubourg, rongé par la rouille. La vidéo partagée par un citoyen a remis les escaliers de Québec dans l'actualité en janvier 2026. Mais le caractère viral de cette vidéo n'a rien à voir avec la décision de la ville de rénover ou remplacer ces 5 escaliers, soit ceux du Faubourg, des Franciscains, Frontenac, Lépine et de la Chapelle, assure la conseillère municipale du district de Saint-Roch-Saint-Sauveur, Hélénie Lepage. C'est une analyse qui avait été entamée en 2024. Je pense que cette vidéo a peut-être alarmé les citoyens. Si les escaliers n'étaient pas sécuritaires, on les aurait fermés, assure Madame Lepage, qui note que la ville a un programme de suivi pour ses ouvrages qui datent, dans certains cas, de plus de 100 ans. Les 46 escaliers de Québec sont essentiels dans cette ville sculptée dans le Cap Diamant. La conseillère municipale qui habite la basse ville le sait très bien. Elle enfoule les marches plusieurs fois par semaine pour aller travailler à l'hôtel de ville ou pour aller au cours de natation de son fils. Née de pression populaire. Le chantier annoncé par la ville vise la reconstruction de l'escalier en fer du Faubourg, 1,4 million de dollars, à l'identique. Celui des Franciscains, démoli à l'automne 2025, sera reconstruit, 1,7 million. Les escaliers Frontenac, Lépine et de la Chapelle seront quant à eux rénovés. En tout, la ville pense devoir dépenser 4 millions dans l'opération. L'historien Jean-François Caron salue la volonté de la ville de maintenir l'aspect d'origine de ces 5 escaliers. Québec, c'est une ville à 2 étages, note M. Caron, qui rappelle que plusieurs escaliers de Québec sont nés dans la foulée de pressions citoyennes. Il cite en exemple le plus long escalier de la ville, celui du Cap Blanc, aujourd'hui prisé des sportifs qui usent leurs souliers sur ses 398 marches. Le lien avait été réclamé par des habitants du quartier Saint-Jean-Baptiste qui travaillaient au port en bas du Cap. Il servira ensuite aux citoyens d'en bas qui travaillaient à la cartoucherie Ross Rifle sur les plaines d'Abraham. Preuve que ces liens sont indispensables à Québec, des citoyens réclament toujours de nouveaux escaliers. C'est le cas, par exemple, dans le quartier Saint-Sauveur, où le comité citoyen demande un nouvel escalier à l'ouest de celui des Franciscains. Les escaliers font partie d'une certaine forme du patrimoine urbain à Québec, mais je pense qu'avant tout, et je le dis comme urbaniste et usager, ils ont une fonction de mobilité douce, explique Étienne Berthold, professeur de géographie à l'Université Laval. L'escalier du Faubourg, par exemple, est emprunté par 200 à 400 personnes par jour. Le professeur Étienne Berthold est content de voir la ville rénover ses ouvrages. Il pense même que de nouveaux escaliers pourraient être envisagés. Les escaliers, pour ce que ça coûte et ce que ça apporte, c'est risible. C'est génial comme stratégie de mobilité, dit-il. Ils sont très utilisés. Les 5 escaliers visés. Escalier du Faubourg. L'un des escaliers les plus emblématiques de Québec, qui relie Saint-Roch à Saint-Jean-Baptiste. D'abord érigé en bois en 1855, il est reconstruit en fer forgé en 1880. Le métal est désormais mangé par la rouille. La ville assure qu'il est sûr, mais des travaux de reconstruction sont prévus en 2027. Escalier des Franciscains. Les pluies diluviennes du 23 juin 2025 ont fini d'achever les fondations de l'escalier des Franciscains. Démoli, l'ouvrage en bois qui existait depuis 1944 sera reconstruit. Les travaux sont prévus entre les mois de mai et d'octobre 2027. Il faut solidifier la falaise qui a été affectée par de fortes pluies. On veut être plus résilient au changement climatique, explique la conseillère Hélénie Lepage. Escalier Frontenac. Construit en 1977, l'escalier Frontenac est l'un des plus récents de la capitale. Des travaux mineurs sont prévus au printemps sur ces 95 marches en bois. Prisé des touristes, il relie la côte de la montagne à la terrasse du Ferrin. Escalier Lépine. Ce vieil escalier a été construit en 1857, après des pressions de citoyens de la haute ville qui demandaient un accès au quartier Saint-Roch. Il est reconstruit en fer en 1883 sous la direction de l'ingénieur Charles Baillarger. Baillarger était très à l'affût de ce qui se faisait de mieux dans le monde, et le métal à l'époque, c'était le progrès, note l'historien Jean-François Caron. Il subira des travaux d'entretien correctif sur sa structure en 2027. Escalier de la Chapelle. L'escalier de la Chapelle date de 1937. et permettait notamment aux gens de la haute ville d'atteindre les grands magasins de Saint-Roch. Il est apprécié des cyclistes qui utilisent son dallo pour monter ou descendre leur vélo. La ville entend rénover sa structure en 2027. C'était « À Québec, les escaliers remontent la pente », un texte de Gabriel Bélan, paru le 28 mars 2026 dans la presse.
Le microbiote vaginal comme première alarme. Un texte de Mathieu Perrault, paru le 26 avril 2026 dans La Presse. Les bactéries intestinales ne sont pas les seules à intéresser les chercheurs dans leur quête d'outils de dépistage et de guérison. Le microbiote vaginal pourrait également en avoir long à dire sur la santé des femmes. Rôle dans le dépistage. Des chercheurs américains se penche sur l'analyse du microbiote vaginal, l'ensemble des micro-organismes qui vivent dans cette région du corps féminin, pour améliorer le dépistage du cancer. Le microbiote vaginal est impliqué dans la progression du cancer et peut-être dans son apparition, dit Nicole Jimenez, chercheuse à l'Université de l'Arizona. Elle présentait ses travaux à la réunion annuelle de l'Association américaine pour l'avancement des sciences, AAA, en février à Phoenix. Le laboratoire où travaille Mme Jimenez, qui est spécialisée dans les cancers gynécologiques, a identifié un genre de bactérie, Sneitia, qui est associée au cancer de l'utérus. On veut étudier les interactions de Sneitia avec d'autres éléments du microbiote pour comprendre ce qui permet sa prolifération, dit la microbiologiste de Phoenix. L'exemple le plus connu de microbes qui augmentent le risque de cancer est le virus du papillome humain, VPH. Les femmes qui ont été vaccinées contre le VPH avant leur premier rapport sexuel ont 90 % moins de risque d'avoir un cancer du col de l'utérus. Le vaccin contre le VPH est aussi donné aux garçons pour réduire le risque de cancer du col de l'utérus chez les filles. Le dépistage et des traitements devrait découler des recherches sur le microbiote vaginal. On pense qu'il sera possible de détecter des cancers très tôt en analysant la réponse immunitaire à certains microbes du microbiote vaginal, dit Mme Jimenez. Certaines modulations du microbiote semblent favoriser l'inflammation menant aux tumeurs et les protéger contre le système immunitaire. Le microbiote vaginal pourrait aussi avoir un effet sur la prolifération cellulaire, une caractéristique clé du cancer. Traiter des cancers en ciblant certains microbes. L'étape suivante, qui fait déjà l'objet de recherches, est d'identifier les microbes favorisant le cancer qu'on pourrait cibler dans des traitements. Des thérapies de modification du microbiote sont envisagées et seront testés dans quelques années, dit Mme Jimenez. On teste aussi dès maintenant des thérapies de promotion des bactéries bénéfiques comme les lactobacilles qui préviennent les vaginites et le cancer du col de l'utérus. Mme Jimenez estime qu'elle verra durant sa carrière des thérapies de modification du microbiote visant à réduire le risque de cancer ou à minimiser sa progression. Il pourrait même y avoir un lien entre le microbiote vaginal et le cancer des ovaires, dit Mme Jimenez. Impact du microbiote sur les naissances. Le premier séquençage du microbiote vaginal il y a 10 ans visait surtout à résoudre des problèmes durant la grossesse, dit Mme Jimenez, qui a fait son doctorat au sein du consortium pour le microbiote vaginal de l'Université Virginia Commonwealth. Des recherches ces 30 dernières années ont par exemple montré que certaines bactéries du genre Sneitia augmente le risque de naissance prématurée, de mortinaissance et de transmission de la mère à l'enfant de virus comme celui du sida. Des anomalies du microbiote ont aussi été associées à l'endométriose et à l'adénomyose, deux types de maladies inflammatoires similaires. Traiter les hommes aussi. Une autre avenue prometteuse dans l'étude du microbiote vaginal est la découverte de transmissions néfastes pour la santé féminine durant les rapports sexuels. Déjà, on sait que le VPH transmis de l'homme à la femme augmente le risque de cancer du col de l'utérus. En 2025, une vaste étude a montré qu'on peut réduire les récurrences de vaginite chez les femmes en traitant aussi leurs partenaires avec des antibiotiques, dit Mme Jimenez. Des études sont aussi en cours pour voir comment les traitements du cancer du sein modifient le microbiote vaginal afin de minimiser leurs effets secondaires négatifs. L'impact des changements hormonaux. L'une des questions les plus pressantes de ce domaine est l'impact des changements hormonaux, notamment à la ménopause, sur le microbiote vaginal. Il y a beaucoup d'études en cours sur la manière dont la ménopause change le microbiote et aussi sur l'effet de l'hormonothérapie, dit Mme Jimenez. Quand les niveaux d'estrogène diminuent, il y a moins de lactobacilles et plus d'autres bactéries potentiellement néfastes. L'hormonothérapie augmente l'épaisseur de la paroi vaginale, ce qui semble promouvoir la croissance des lactobacilles qui sont bénéfiques. Les hormones sexuelles, notamment l'estrogène, modifient le risque de certains cancers, y compris de cancer du sein. On commence à comprendre que les changements du microbiote peuvent avoir un effet sur la quantité d'estrogène qui est émis, dit Mme Jimenez. Les changements du microbiote vaginal à la puberté, notamment quand elle est précoce, pourrait aussi améliorer la gestion de certains facteurs de risque oncologique, dit la microbiologiste de l'Arizona. En savoir plus. Source Société canadienne du cancer. 12,6% risque pour une Canadienne d'avoir un cancer du sein durant sa vie. 3,4% risque pour une Canadienne d'avoir un cancer des ovaires durant sa vie. 1,3% risque pour une Canadienne d'avoir un cancer de l'utérus durant sa vie. 0,6% risque pour une Canadienne d'avoir un cancer du col de l'utérus durant sa vie. C'était « Le microbiote vaginal comme première alarme », un texte de Mathieu Perrault, paru le 26 avril 2026 dans « La Presse ».